Présence qui enrichit. C'est ta présence qui donne la vie. C'est ta présence qu'il nous faut à chaque jour de notre vie. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui se confie en toi ne sera jamais déçu. Tu n'as jamais changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le feras demain. Tu ne changes pas, Seigneur. Et c'est pourquoi mon cœur te loue ce soir. Pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Parce que quand tu es là, Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Nous ne pouvons pas être dans ta présence sans que tu changes quelque chose en nous. Loué sois-tu, Seigneur. Je veux t'adorer ensemble avec mes frères et sœurs ici. Gloire, puissance, honneur à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône et qui règne aujourd'hui. Merci, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Amen. Comme notre sœur a parlé de libération, le Seigneur aujourd'hui est encore le grand sauveur. Il est le sauveur qui sauve, libère, qui baptise dans le Saint-Esprit et qui guérit aujourd'hui encore. Et toujours, notre sœur a parlé de libération. Gloire à Dieu pour sa libération. Gloire au Seigneur. Je ne connais pas sa vie, mais je dis gloire au Seigneur, parce que c'est toujours glorieux. Je ne connais pas son témoignage, mais je sais qu'il est toujours glorieux, parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de petite délivrance, de grande délivrance, de petits miracles ou de grands miracles. Tout est grand à l'image de notre Seigneur. Un jour, on a amené un paralytique à Jésus. Je voudrais introduire mes paroles de témoignage par ce passage dans Matthieu 9, juste quelques versets. On a amené un jour à Jésus un paralytique et le Seigneur lui a dit « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelques scribes dirent au-dedans d'eux « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Le Seigneur a guéri cet homme pour montrer qu'il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui encore. Il y a juste quelques semaines, nous étions rassemblés dans notre maison, avec notre église, et nous étions en train d'adorer le Seigneur tous ensemble, un petit groupe. Arrive un couple que nous n'avions jamais vu, que nous ne connaissions absolument pas. Et pendant l'adoration, pendant la louange, quand la présence du Seigneur était là, le Seigneur, j'étais au piano, et d'un seul coup, le Seigneur m'a donné cette, en pleine louange, cette parole de connaissance, disant, il y a ici un homme, il y a ici une personne qui souffre du genou droit et de problèmes dans les articulations. Or, ce couple qui était venu de nouveau, que nous ne connaissions pas, le mari dans ce couple souffrait depuis 32 ans d'arthrose cervicale et du genou droit. Depuis 32 ans. Il a 67 ans aujourd'hui. Et il nous a raconté que ses douleurs cervicales lui faisaient tellement mal à certains moments donnés que ça lui donnait des nausées épouvantables, de très fortes nausées, et il n'avait qu'un moyen pour calmer cette douleur, c'était de prendre son sèche-cheveux et de se chauffer un peu la nuque. C'était très, très douloureux depuis 32 ans. Et en plus de cela, il avait son genou droit qui l'handicapait énormément dans tous les travaux qu'il pouvait faire dans sa maison ou dans son jardin. Et au moment où le Seigneur a donné cette parole de connaissance, cet homme, à sa place, a été touché par le Seigneur, tout simplement. Parce que le Seigneur était là. 32 ans de souffrance. Mais le Seigneur, un jour, arrive. Et il n'arrive pas en retard. Il arrive à son heure. Il est tout puissant pour guérir les infirmités les plus grandes. Et nous l'avons vu maintes et maintes fois. Mais une fois de plus, dans notre maison, nous avons tous ensemble adoré et loué le Seigneur pour son amour si délicat, sa compassion, sa tendresse si douce à l'égard de chacun de nous. Il nous aime profondément. Le deuxième témoignage, ça c'était une guérison, pour dire le Seigneur guérit aujourd'hui encore. C'est juste il y a quelques semaines, quelques années en arrière, nous avions un grand rassemblement en France où le Seigneur a fait un miracle extraordinaire devant nos yeux. Nous étions rassemblés, plusieurs centaines de personnes cette fois, en train d'adorer, de louer le Seigneur. Et le Seigneur est venu au milieu de nous parce que quand je m'écris « Loué soit l'Éternel », le Seigneur descend au milieu de nous. Il vient nous visiter. Et le Seigneur est venu et a touché quelqu'un de très spécial. Des amis, c'était une dame, des amis l'avaient amené à notre convention, dans notre ville. Et le Seigneur a touché cette femme qui avait le bec de lièvre. Vous savez ce que c'est le bec de lièvre? C'est une infirmité qu'on ne peut pas guérir sauf des opérations et encore. Donc c'est le palais fendu ici, devant, tout fendu ici, ouvert, là, écarté, le palais fendu. Et au moment où dans l'adoration nous étions tous là, sans que personne n'ait vu quoi que ce soit, le Seigneur a fermé la bouche de cette femme, a fermé le bec de lièvre. En France. Alléluia, Seigneur. Et ses amis qui l'ont amené ont bien sûr, ils savaient comment elle était avant. Elle avait un bec de lièvre, tous ont dit, elle avait le palais fendu. Et on lui a dit, montre-nous. Elle a ouvert sa bouche et on voyait encore la cicatrice. Le Seigneur a laissé la cicatrice pour jour qu'elle se rappelle toujours et que ceux qui l'ont connue se rappellent toujours qu'elle avait le bec de lièvre. Gloire au Seigneur Tout-Puissant qui guérit aujourd'hui, qui fait des miracles aujourd'hui. Mais je voudrais parler d'un dernier témoignage qui est celui de la transformation d'un homme. C'est le plus grand miracle que Dieu fait quand il transforme un homme ou une femme complètement. Et vous savez, ce qui touche beaucoup aussi, c'est que dans une foule immense, une grande foule, le Seigneur nous connaît chacun et il connaît notre nom, il connaît notre situation. Rien n'échappe à notre grand, puissant Seigneur qui nous aime. Et il vient parfois juste pointer du doigt vers nous pour nous dire « c'est toi que je cherche là-bas, c'est toi que je veux trouver, c'est à toi que je parle ». Nous étions réunis sur un grand terrain à Kinshasa, dans l'ex-Zaïre aujourd'hui, le Congo démocratique. Et nous faisions une campagne d'évangélisation. Une grande foule de gens était là. On ne pouvait pas voir tout le monde. C'était une immense foule de plus de 20 000 personnes à laquelle nous annoncions l'évangile. Et le Seigneur savait qu'il y avait quelqu'un de particulier dans cette foule qu'il voulait sauver. C'est extraordinaire, ça. Cet homme-là, c'était un voleur, un bandit des grands chemins. Il était recherché par la police de Kinshasa depuis des années. Et on lui avait même donné un surnom parce qu'il allait dans les supermarchés voler, sur les étalages de linge, partout il allait voler, il allait dans les restaurants, il mangeait et puis il disait « j'ai déjà payé », enfin ce genre de... C'est un voleur des grands chemins, un bandit des grands chemins. Mais la compassion du Seigneur pour cet homme-là. Ce jeune homme-là, il était venu dans la foule, c'était très facile pour arracher les sacs des femmes, pour arracher leurs bijoux et tout ça. C'était très facile parce que dans une foule de 20 000 personnes, personne ne peut l'attraper. Il était venu pour ça. Mais le Seigneur, lui, le voyait. Et il est arrivé et il a entendu le message de l'Évangile. Et il a été instantanément touché par le Seigneur. Il a instantanément arrêté de voler. Arrêté son désir-là, d'arracher et de prendre. Il était comme un peu paralysé parce que le Seigneur s'adressait à lui, là. Et quand il y a eu le moment des témoignages, de guérison et autres, cet homme est venu sur le podium. Et il a dit, je suis le voleur puissance 4, il s'appelait, recherché par la police. Ce soir, Jésus m'a parlé. Je ne savais que voler, c'était ma vie. Mes parents avaient eu honte de moi, ils m'ont mis dehors. Et cet homme-là, il a dit, ce soir, j'ai compris, Jésus a changé, il est entré dans mon cœur, je change de vie. Je change de vie, là. Je ne vais plus voler une seule fois et je vais, voilà la transformation d'un homme, de voleur qu'il était, il a dit, je vais aller demander pardon à mes parents. Parce qu'ils ont eu honte de moi, maintenant je vais me réconcilier avec eux, leur demander pardon. Pardon. Et ensuite, il s'est adressé à nous, parce qu'on priait aussi pour... On a prié pour lui. Et il a dit, s'il vous plaît, priez pour moi, afin que je puisse, maintenant, honnêtement, gagner ma vie, comme tout le monde. Ça, c'est une transformation. Il vivait de ça. C'était sa vie. Là, d'un seul coup, il se trouvait plus sans travail, sans ressources. C'est ça l'histoire. Mais le Seigneur s'occupe de quelqu'un comme ça. Alors, nous avons prié pour lui. Seigneur, tu le vois maintenant. Il commence une toute nouvelle vie. Seigneur, merci parce que tu t'en occupes. Merci de lui trouver un travail. Et nous avons continué. D'autres témoignages de délivrance, de guérison, de miracles sont arrivés. Et c'est allé peut-être une dizaine de minutes. Un monsieur bien habillé monte sur le podium. Il vient nous voir. C'était un homme d'affaires. Il a dit, moi j'engage le jeune homme dans mon entreprise. Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de transformation de celui qui connaît toutes choses, qui change le cœur et la vie d'un homme. Et ça, c'est plus grand que tous les miracles physiques qu'on peut voir. Nous avons vu des aveugles être guéris par la puissance de Dieu. Mais la transformation totale d'un homme, faire d'un homme une nouvelle créature, c'est bien le plus grand des miracles, comme la parole de Dieu le dit. Et ce soir, nous voulons croire en ce Dieu qui peut transformer les vies de nos bien-aimés, de ceux que nous aimons. Croyons que la puissance de Dieu n'est pas limitée à ce que nous voyons et qu'il peut toucher le cœur le plus dur, le cœur le plus perverti, le plus sale, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il a donné sa vie pour tous ces gens-là aussi. Il veut sauver un chacun de nous. Il n'aime pas plus les uns que les autres. Nous avons tous la même valeur à ses yeux, et c'est ce qui est important, et c'est ce qui est merveilleux. C'est pourquoi nous voulons lui dire combien nous l'aimons ce soir. Seigneur, merci pour ces gens que tu as touchés, Seigneur. Cet homme qui avait une douleur dans la nuque terrible et un genou handicapé. Cette femme qui avait le bec de lièvre. Et cet homme que tu as transformé de fond en comble. Seigneur, à toi la louange, la gloire et la puissance qui te revient. Amen. Ajouter ceci, c'est que ce jeune homme-là, il aurait pu être arrêté parce qu'il y avait des policiers, il y avait des juges, il y avait des avocats, il y avait toute la gamme dans l'auditoire. Et personne n'a bougé. Ça aussi, c'était un miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, à l'écoute de sa parole.
Combien tu es ému devant les malades, nous le voyons dans ta parole. Et ta compassion demeure éternellement. Tu es là aussi ce soir, tu es avec nous, et nous voulons rester avec toi, être avec toi, afin de toujours mieux te connaître, toujours mieux t'aimer, toujours mieux te servir, toujours mieux te refléter, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu fais, et tout ce que tu veux encore faire. Car tu n'as pas fini d'agir.
Amen.
Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et à ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Merci. Bénis maintenant cette méditation de ta parole, qu'elle puisse vraiment fortifier notre foi, nous édifier, nous exhorter, nous consoler.
Amen.
Et nous donner de toujours mieux te connaître, afin de toujours mieux te servir. Seigneur, nous dépendons de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je ne peux absolument rien faire. C'est pourquoi nous dépendons du ministère du Saint-Esprit, pour qu'il vienne nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Merci, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, afin que nous comprenions ce que nous n'avons pas encore compris.
Amen.
ou mal compris. Seigneur, viens-nous en aide, car nous avons besoin de toi. Et merci, parce que tu veux nous aider. Béni sois-tu, Seigneur, de tout notre cœur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque nous avons ces grandes campagnes d'évangélisation, il y a toujours une joie profonde, très grande, dans mon cœur,
Amen.
D'annoncer cette merveilleuse parole de l'Évangile et de savoir que Dieu est là pour confirmer sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Et je me souviens, au Togo, un soir, il y a eu 7 aveugles qui ont vu.
Au Bénin.
7 aveugles. Le premier étonné, c'était moi-même. Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On est surpris devant ce que Dieu fait. On réalise tellement que si le Seigneur n'est pas là, qui peut faire ces choses? Impossible humainement. Et là, pendant cette campagne, tout spécialement, mon cœur a été touché par la compassion du Seigneur.
Amen.
Et aussi par la vérité de l'Évangile. J'ai vu que lorsque nous prêchons fidèlement sa parole, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir.
Amen.
Et la confirme.
Amen.
Mais il faut pour cela ne pas raconter n'importe quoi. Parce qu'il n'est pas dit que Dieu confirme n'importe quoi. Il est dit que Dieu confirme sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Et c'est toujours une grande joie pour nous lorsque nous allons en Afrique et dans d'autres pays et voir le Seigneur confirmer sa parole par divers miracles. Des sourds qui entendent, des paralytiques qui marchent, des sorciers qui sont délivrés. En Côte d'Ivoire, un fou a été délivré, un fou enchaîné comme cela. Il n'y a point de limite à la puissance de Dieu et à son amour. Alléluia. Ne doutons jamais de l'amour de Dieu. Je sais que dans ce domaine-là, on se pose des questions. Les choses ne vont pas toujours aussi facilement qu'on le voudrait. Nous le réalisons, nous le savons. Mais au travers de toute difficulté ou incompréhension, il y a une chose à propos de laquelle vous ne devez jamais douter. C'est de l'amour du Seigneur et de sa compassion. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais vous ne devez jamais douter de sa compassion. Nous devons toujours avoir le cœur ouvert et ne pas nous endurcir quand les choses ne vont pas comme on le voudrait. C'est si facile d'accuser le Seigneur et dire « Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. » Nous devons veiller à cela. Car s'il y a une personne contre laquelle vous ne devez rien avoir, c'est bien contre le Seigneur, n'est-ce pas vrai? S'il y a vraiment une personne contre laquelle on ne doit pas élever la voix et avoir des doutes, c'est bien à propos du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et si nous ne faisons pas attention, l'ennemi sera toujours là pour nous insuffler des pensées contre celui qui est parfait. Contre celui en qui il n'y a point d'iniquité. Et il veut mettre le doute en nous pour dire, crois-tu que Dieu t'aime encore? Tu as prié, tu as jeûné. Crois-tu qu'il t'aime encore? Certainement qu'il t'a abandonné. Et combien ont abandonné la foi à cause de cela, de cette mauvaise conception, parce qu'ils ont écouté l'ennemi. Et ils ne sont plus là aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Et il y en a des multitudes comme cela. Des multitudes. Gardons toujours notre cœur ouvert à l'amour du Seigneur et à la vérité de sa parole. Parce que Jésus lui-même a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Donc si nous aimons le Seigneur, nous devons garder sa parole. J'aimerais dire quelques mots sur le sujet de notre retraite, puisque vous savez que nous avons une retraite spirituelle qui commence ce soir, que nous aurons demain dans un lieu à part où nous aurons 3 réunions. Et puis dimanche matin, nous compléterons aussi ce thème qui est sur le renouvellement spirituel. Comment rester rempli du Saint-Esprit dans ces derniers temps? Comment être renouvelé dans sa vie spirituelle, dans la vie de l'Esprit? Comment être renouvelé? Comme nous voyageons beaucoup, nous constatons que beaucoup de chrétiens ne savent pas garder cette bénédiction du renouvellement personnel dans la vie de l'Esprit. Des années en arrière, peut-être, qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. C'est la sécheresse, c'est le désert, il n'y a plus rien du tout. Un temps, on était bouillant, mais maintenant, c'est glacial. Trop de chrétiens sont dans cet état-là. Et comme nous voyageons beaucoup, cela nous attriste beaucoup. C'est comme un fardeau au fond de nous-mêmes. Et quand on ne sait pas comment être renouvelé dans sa foi, qu'est-ce qu'on fait? On court n'importe où. On court dans des réunions spéciales où les gens se roulent par terre. On crie comme des animaux. Et pensant que c'est là qu'on va être renouvelé dans le Saint-Esprit. Et on est prêt à faire n'importe quoi. Et on appelle réveil ce que Dieu appelle apostasie. On en est là, mes amis. Et tout ça pourquoi? Parce que le chrétien ne sait pas comment se renouveler lui-même. Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour cela. Nous n'avons pas besoin de courir et faire des milliers de kilomètres. Dépenser son argent, même inutilement. Pour revenir toujours les mêmes. Ce sont des feux de paille. Il y a un feu qui dure, mais très peu de temps. Et après, il faut recommencer. Ah, on entend quelque chose. Oh là-bas, extraordinaire! Oh, au cours! On revient, au bout de quelques temps, il n'y a plus rien. On entend autre chose! J'y vais! On y va! Allez-y! Et voilà. Et on va, on vient, on court. Tout ça pour être renouvelé. Mais mes amis, ce n'est pas de cette façon que vous serez renouvelé. Il y a un moyen divin. Le Seigneur veut vous apprendre à recevoir sa bénédiction et aussi à la garder, à la conserver. Amen. Amen. Afin de pouvoir aussi la communiquer aux autres, qu'on ne court pas constamment pour recevoir. On passe toute notre vie à recevoir. Et à recevoir n'importe quoi en plus. Alors que nous devrions passer notre vie à donner et à nous donner. Mmh. Amen.
Amen. Amen.
Comment être renouvelé? Dans quel état êtes-vous ce soir? On peut louer le Seigneur ici. C'est un moyen extraordinaire, la louange. Tout à fait d'accord. Mais il y a d'autres vérités. D'autres vérités avec la louange et l'adoration que vous devez connaître, que je dois connaître, si je veux rester rempli de l'Esprit, si je veux connaître cette source jaillissante qui me permet d'être renouvelé, qui me permet d'être verdoyant malgré la sécheresse, qui me permet de vivre cette plénitude même quand tout est mort autour de moi. Comment vivre cette vie de l'esprit? Nous verrons demain aussi les différents pièges aussi qu'il y a dans la vie de l'esprit. Si nous ne faisons pas attention, il y a des pièges qui peuvent nous éloigner du vrai but. Nous verrons cela. Nous verrons comment aller. Les différentes étapes qui nous mènent à la chambre haute. Nous verrons aussi l'importance du parler en langue dans la vie d'un chrétien baptisé dans le Saint-Esprit. L'importance du parler en langue. Beaucoup de chrétiens se disent être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue au début et maintenant il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est une tragédie. Il y a dans le parler en langue une source de renouvellement extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue. »
Amen.
Et lui-même le disait « Je parle en langue plus que vous tous. » Et quand il dit « Je désire que vous parliez tous en langue », le verbe « désirer » c'est « Je désire ardemment. » Parce qu'il connaissait lui-même la puissance extraordinaire de renouvellement qu'il y a dans ce don-là. Alors nous verrons cela demain et nous prendrons aussi le temps pour prier pour ceux qui le désirent.
Amen.
À la fin du séminaire, de la retraite, pour qu'il y ait un véritable renouvellement. Et nous verrons aussi dans un dernier message un exemple, un homme exemple de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. À quoi ressemble quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, on veut nous faire croire que celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui fait n'importe quoi. C'est celui qui a les gestes les plus bizarres, les comportements les plus bizarres. On dit, il est rempli du Saint-Esprit. Non, 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 mes amis. Il est rempli de lui-même, mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il est rempli d'orgueil, mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, être rempli du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la plénitude que Dieu nous montre dans sa parole. Amen.
Amen.
À quoi ressemble quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Mais à quoi? Nous allons le voir. Il y a des exemples. Il y a un exemple particulier. Je ne vous dis pas maintenant, vous le saurez quand vous viendrez. Mais c'est merveilleux. Vous verrez ce qu'est une personne remplie du Saint-Esprit. Et vous verrez que ce n'est pas du tout ce que nous pensons et nous voyons bien souvent aujourd'hui de personnes qui crient, qui sont remplies du Saint-Esprit. C'est là qu'on réalise qu'ils sont remplis d'eux-mêmes et d'orgueil. Mais loin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais ce soir, brièvement, je ne serai pas long. Comment être renouvelé dans le Saint-Esprit? Avant d'aller plus loin, on a dit le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comment être renouvelé dans le Saint-Esprit? Il est donc question ici de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Il faut d'abord mettre l'accent sur la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a tant de confusion, tant d'ignorance, tant de désordre dans toute cette vie de l'Esprit. Parce qu'on ne sait pas qu'être rempli du Saint-Esprit, s'être rempli de la personne du Saint-Esprit. Et cette personne a des qualités, a des attributs, a une personnalité. Si nous en sommes vraiment remplis, ces qualités qui sont en lui pénètrent en nous et nous transforment à l'image du Seigneur. Amen.
Amen.
Alors, la nécessité de connaître la personne du Saint-Esprit, c'est le titre de mon message ce soir, la nécessité de connaître la personne du Saint-Esprit. Bon, naturellement, on pourrait dire beaucoup de choses, on pourrait rester toute la semaine là-dessus, mais je vais vous donner 5 points importants, 5 vérités importantes sur la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est cela qui va aussi vous orienter dans votre vie, dans votre recherche, pour recevoir la bénédiction de Dieu et pour la garder, et pour la communiquer, et pour que cette grâce aille en augmentant et non pas en diminuant. Il faut donc connaître qui est le Saint-Esprit. Il y a donc 5 vérités au sujet du Saint-Esprit. 5 appellations, si vous voulez. La première vérité, caractéristique, si vous voulez, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. Et dans plusieurs passages, là j'en ai noté quelques-uns seulement. Donc, dans Marc 1, 10, par exemple, il est dit que Matthieu 3, 16, pardon. Matthieu 3, 16. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Il est dit, Matthieu 3, 16, « Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu, descendre comme une colombe et venir sur lui. » L'Esprit de Dieu. Pourquoi l'Esprit de Dieu? Une autre référence, 1 Corinthiens 3, 16, il y en a beaucoup, je note juste quelques-unes des références, sinon on ne va pas en finir. On peut prendre une concordance et puis vous trouvez tous ces passages-là. C'est dans la concordance que je les ai trouvés aussi. Donc, 1 Corinthiens 3, 16, il est dit, « Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous. » En vous. 1 Corinthiens 3, 16. Alors, voyez-vous, pourquoi l'Esprit de Dieu? Parce qu'ailleurs, il est appelé autrement. Mais là, il est appelé Esprit de Dieu. Pour que nous sachions une chose, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Il fait donc partie de la troisième personne de la Trinité. Et là, j'espère que vous êtes clair, parce que dans une conversation, dans une maison, il n'y a pas longtemps, une des personnes qui était venue, elle parlait, rendait témoignage, puis d'un seul coup, elle a parlé de la Trinité. Elle a dit, oui, alors la Trinité, oui, tout ça. Avant, je ne comprenais pas bien tout ça. Et puis, oui, la Trinité, c'est une personne en 3 manifestations différentes. J'ai dit stop! Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous venez de dire? J'ai dit, vous avez bien dit que c'est Dieu qui est une personne qui se manifeste de 3 façons. J'ai dit, ça c'est une hérésie. La Trinité, ce n'est pas cela. C'est un seul Dieu en 3 personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, c'est vrai, mais qui se manifeste sous 3 personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne, c'est un seul Dieu en 3 personnes. Il y a là, bien sûr, un mystère que nous ne pouvons comprendre. Mais laissez-moi dire une chose. Toutes les sectes ont une fausse conception de la Trinité et ne voient jamais le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme étant les trois personnes de la Trinité. Alors les témoins de Jéhovah, c'est Jéhovah qui est Dieu, mais Jésus c'est un Dieu, mais avec un D minuscule. Le Saint-Esprit c'est une puissance, c'est le désordre là. Et puis les autres, eh bien les Jésus seuls, les branhamistes. Vous avez entendu parler des branhamistes? Ah non, les Jésus seuls, William Branham, il y a quelques années, faisait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Mais alors, vous savez que sa doctrine, c'était Jésus seul. C'est-à-dire que Jésus était Dieu et qu'il était la manifestation en même temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y avait donc qu'une personne en Dieu. Et ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Et il y en a tant d'autres. Beaucoup de sectes. Et les religions, bien sûr, n'en parlons pas. Donc, la Trinité, c'est un seul Dieu, mais qui se manifeste sous trois personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont également Dieu, dans leur nature, dans leur substance. Vous ne pouvez pas les séparer. Un seul Dieu en trois personnes. Amen. Amen. Et quand il est parlé ici de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Dites-moi, est-ce que vous pouvez commander à Dieu, vous? Et dans beaucoup de milieux, et même dans certains livres qui soi-disant parlent du réveil et de tout cela, il y a des livres où on commande au Saint-Esprit. On ordonne au Saint-Esprit de faire ceci ou cela. Depuis quand avez-vous vu dans le Nouveau Testament Jésus et ses apôtres parler au Saint-Esprit? Et je sais que c'est une avec certains chrétiens, parce qu'ils ont lu ça dans certains livres ou entendu de certains prédicateurs, ils parlent au Saint-Esprit, ils commandent même au Saint-Esprit: Saint-Esprit, je t'ordonne de faire ceci et de cela. Vous ne croyez pas que c'est du désordre, ça? C'est comme cela que le désordre commence. C'est comme cela qu'on éteint l'Esprit en soi. C'est comme cela qu'on attriste le Saint-Esprit, pensant au contraire faire des choses extraordinaires, mais vous attristez le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? Comme Jésus a tout fait pour se soumettre à son Père et glorifier son Père, n'est-ce pas vrai? Et qu'il faisait tout pour se mettre de côté, pour glorifier son Père. Le Saint-Esprit de même, c'est cela son ministère, c'était de se mettre de côté et de tout faire pour glorifier Jésus. Il n'est donc pas question de parler au Saint-Esprit. J'ai la référence ici, Jean 16, verset 12. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et après, il y a un passage très important. Car il ne parlera pas de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne parlera pas de lui-même. Eh bien, dans le texte grec, ça veut dire il ne prendra pas d'initiative personnelle. C'est-à-dire qu'il n'agira pas d'une manière indépendante de Jésus. Parce qu'à entendre certains, on a l'impression qu'il prie au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il a son petit ministère à côté de Jésus. Et il fait ce qu'il veut. Et comme c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas de contrôle. N'importe qui peut dire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait ceci et cela. Et c'est comme ça que c'est la pagaille. Et le désordre. Et tout cela au nom de l'Esprit. Il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que son ministère n'est pas d'attirer les regards vers lui. On ne doit pas le prier. Ce n'est pas là son ministère. Son ministère est de... Il ne fera rien, il ne reprendra pas d'initiative personnelle. Ce qu'il entendra de Jésus, il nous le communique. Autrement dit, il n'a pas de message personnel, de révélation personnelle qui vienne s'ajouter aux paroles de Jésus. Il n'agit pas indépendamment de lui. Son ministère est d'être le porte-parole de Jésus, d'être dans l'ombre lui-même, pour que Jésus seul soit vu, connu, exalté, glorifié. L'Esprit de Dieu, c'est cela. Le ministère du Saint-Esprit est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit, a fait, pour que cela soit vécu dans notre vie. Mais il ne vient pas avec un message à lui. Il n'a pas d'initiative personnelle. Il n'est pas indépendant de Jésus. Il dépend de Jésus. C'est là son ministère. Il est appelé Esprit de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'en tant que son ministère, il est là pour toujours. Là pour recevoir les paroles de Jésus et nous les communiquer. Amen. Il y a tant de confusion dans ce domaine-là. L'Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et des choses contraires à la parole en plus. Des choses qu'on ne voit même pas dans la parole. Voyez-vous comment on peut dévier? Comment on peut s'éloigner des paroles mêmes de Jésus? Allons un peu plus loin, sinon je vais rester toute la soirée avec ça. Une deuxième appellation, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. Ici, j'ai noté la référence, acte 16, 7, il est dit « Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas ». Donc, il est question de Paul, quand, dans ses voyages missionnaires, acte 16, 7, acte 16, 7, « Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » L'Esprit de Jésus. C'est bien le Saint-Esprit, là, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Jésus. Et puis, il y a une autre référence. « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est Galates 4, 6. L'Esprit de son Fils qui crie en nous « Abba Père ». Et 2 Corinthiens 3, 17 aussi, « Nous sommes transformés en la même image par 2 Corinthiens 3, 17. » Et avant, c'était Galates 4, 6. 2 Corinthiens 3, 17, « Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur » en la même image, par l'Esprit du Seigneur, de gloire en gloire. Vous voyez, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit est-il appelé l'Esprit de Jésus? Parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est de prendre, comme je vous l'ai déjà dit, prendre tout ce qui est de Jésus et nous le communiquer. Voyez-vous, il n'a aucun message à lui. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est clair? Tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai dit, voilà, il vous rappellera tout ça. Mais il ne va pas venir avec des révélations à lui. C'est l'Esprit de Jésus. Donc il prend ce qui est à Jésus et nous le communique. Et l'Esprit de Jésus, ça veut dire aussi que l'Esprit de Dieu est là pour glorifier une seule personne, le Seigneur Jésus. Amen. C'est à cela qu'on voit aussi si quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit. Si vous parlez seulement de Jésus. À entendre certains chrétiens, le nom de Jésus, il est quelque part ailleurs, et c'est le nom d'un homme, d'un prédicateur, d'un apôtre, d'un prophète. Maintenant, il y a beaucoup d'apôtres, de prophètes. Maintenant, les gens... Mais là, ils sont, hein? Il faut des titres maintenant. Et on a plus dans sa bouche le nom de ces personnes-là. Mais le nom de Jésus. Oh, Jésus. Jésus, je ne sais pas. Mais quand on parle de Jésus, oui, Jésus, oui, je t'aime, Jésus. Mais quand on parle de ces prédicateurs, ouf, vous savez, extraordinaire. Oh, regardez comment on parle. Des hommes.
D'un prédicateur et de Jésus.
Oui, Jésus, je l'aime. Oui, c'est mon sauveur. Oui.
Ah, c'est tout?
Et comment tu parles du prédicateur, de tel homme, de telle personne? Comment tu en parles? Si tu parles plus des autres que de Jésus, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu le saches. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est rempli de Jésus. Un point, c'est tout.
Un point, c'est tout. Parce que l'Esprit de Dieu n'a qu'un désir, c'est d'élever Jésus dans ta vie. De ne parler que de lui. Il ne vient pas là avec un autre. Et tu sais, j'ai une nouvelle. Il y a l'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre à côté de Jésus. Il est le seul. Le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux. Il est Dieu manifesté en chair. C'est l'Esprit de Jésus. Quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, on est rempli de Jésus et de lui seulement. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Mais si dans notre bouche il y a tout un tas de noms, ça montre bien que nous sommes remplis de nous-mêmes et remplis d'orgueil, mais jamais remplis du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, les premières paroles qui sortent, gloire à toi Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ça sort facilement. Jésus, il n'y en a pas deux comme lui. Les hommes pâlissent à côté de lui. Amen. Les hommes pâlissent. Jésus. Jésus.
Amen.
Voilà le ministère du Saint-Esprit. C'est de le glorifier, lui, l'Esprit de Jésus. Voyez-vous combien le Saint-Esprit soupire à ce que Jésus prenne toute sa place dans notre vie et que personne d'autre vienne régner en nous ou nous influencer. C'est le Saint-Esprit. Il est jaloux de cela. Avez-vous cette jalousie en vous? L'Esprit de Jésus ne nous permet pas d'aller là-bas. Le Saint-Esprit n'a qu'un désir, c'est de nous faire aimer toujours plus le Seigneur, de lui obéir, de lui ressembler. Amen. D'être comme lui. Si quelqu'un a ses désirs en lui, que pour lui, rien que lui, il est vraiment rempli du Saint-Esprit. L'autre qui dit n'importe quoi, il peut même parler du Saint-Esprit. Mais ce ne sont que des mots. La réalité est tout à fait autre chose. Amen. L'Esprit de Jésus. Une troisième appellation. Le Saint-Esprit s'appelle aussi l'Esprit Saint. Et à combien de reprises, n'est-ce pas vrai? Combien de reprises dans les Écritures? Là, je donne juste quelques références. Jean 14, 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles après? L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, c'est l'Esprit Saint. Il y a une autre référence encore, ce que j'ai noté ici. Acte 1-8, c'est la clé des actes des apôtres. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment l'Esprit de Dieu est-il appelé ici? Le Saint-Esprit. Mes amis, beaucoup de chrétiens ont oublié ça. Aujourd'hui, on recherche beaucoup plus sa puissance. Le chrétien doit réaliser qu'il y a quelque chose de plus important dans sa vie que la puissance et la grandeur du Saint-Esprit. C'est la sainteté de l'Esprit de Dieu.
Amen, amen, amen.
Si vous avez compris ça,
amen,
alors l'Esprit de Dieu se manifestera avec puissance. Mais vous devez, je dois réaliser qu'avant toute chose, l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint. Ça vient avant sa puissance. Mais pour beaucoup de chrétiens, quand ils entendent parler de puissance, ils tombent dans les pommes. Littéralement. C'est ce qu'ils veulent. Ils feraient le tour du monde pour avoir la puissance. Mais quand on leur parle que l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint, ça les intéresse. Tu me verras une autre fois. Nous parlerons là-dessus une autre fois. On en parlera.
Et on n'en parlera jamais.
Ça ne les intéresse pas. Et laissez-moi vous dire, si ça ne vous intéresse pas, vous perdez votre temps. Car ça intéresse l'Esprit de Dieu. Ça intéresse le Seigneur. Vous avez intérêt, j'ai intérêt à m'intéresser à ce que Dieu s'intéresse. Vous avez intérêt à vous intéresser à ce que le Saint-Esprit est. Si vous ne voulez pas perdre trop de temps, ou même toute votre vie, à courir après des chimères, après le vent, l'Esprit Saint, rappelons-nous, dans toutes nos relations, réalisons que Dieu, l'Esprit de Dieu, est un Esprit Saint. Ça veut dire qu'il ne peut passer par-dessus le péché. Il doit le juger. Il doit le condamner. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et caresser un péché dans votre vie. C'est impossible. Mais aujourd'hui, pour certains chrétiens, c'est possible. Oui, on vit le siècle où tout est possible aujourd'hui. On peut être rempli du Saint-Esprit avec le péché dans sa vie. Et on le dit encore. Je suis rempli du Saint-Esprit, ah bon ? Menteur ! Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu caresses le péché. Tu ne réalises pas que Dieu est saint. Vous jouez avec le péché dans votre vie. Et vous pensez être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous couvrez le péché ? Quel qu'il soit, vous le savez quand il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous le couvrez ? Et vous vous faites encore l'illusion que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Quelle tragédie ! Ne l'oubliez jamais, que je ne l'oublie jamais. L'Esprit de Dieu est un Esprit Saint.
Amen.
Il ne viendra jamais justifier le péché dans ta vie. Ah oui, mais moi, vous ne comprenez pas ma situation. Oh, vous comprenez. Comment, hein, les larmes de crocodile qui viennent. Et tout ça pour cacher notre péché. Parce qu'on ne veut pas changer. Et on veut croire qu'on est rempli de l'Esprit. Nous ne pouvons pas tromper Dieu, n'est-ce pas vrai? Vous pouvez vous tromper vous-même. Vous pouvez tromper les autres, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. C'est ce qu'Ananias et Saphira ont pensé, n'est-ce pas vrai? Il a dit, vous avez menti à Dieu et vous avez menti au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un Esprit Saint. Mes amis, si vous voulez que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie, il faut réaliser que celui qui agit en vous, qui habite en vous, est un Esprit Saint et qu'il veut que la beauté, la sainteté, la pureté de Jésus soient vues dans votre vie. C'est essentiel. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là en vous. Non pas pour vous dire, voilà, je suis sauvé, tu m'as béni. C'est bien, mais il ne faut pas en rester là. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si nous ne comprenons pas cela, nous resterons jamais remplis du Saint-Esprit. Un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas. Un jour, on est en pleine forme, le lendemain, il n'y a plus rien, on fait une dépression. Et voilà, parce qu'on n'a pas réalisé cela. Comme je le dis souvent, le péché, c'est comme un serpent. Vous ne pouvez pas jouer avec un serpent. Quand il y a un serpent dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez dormir? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un serpent? Non, il faut le faire sortir. Prendre le bâton, un couteau, je ne sais pas ce qu'il faut pas pour écrire quelque chose. Il faut le tuer. Si vous ne tuez pas le péché, c'est le péché qui vous tuera. Et cela, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris aussi. Ils jouent avec le péché. Moi, le mien, c'est, par rapport à l'autre, c'est encore pire. Ah bon? L'autre, il est gros, peut-être son serpent, mais toi, c'est un petit serpent. En Afrique, il y a des serpents minutes, des tout petits. En une minute, c'est fini. J'allais dire t'es rôti. En une minute, c'est fini. Un petit! Ah, mais c'est un petit, chez moi. Oh, il est petit, le tien. Ah oui, mais il est aussi mortel. L'Esprit Saint. Allons un peu plus loin, quatrième.
appellation. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de vérité. On l'a lu plusieurs fois. Jean 14, 16, 17, juste lire le passage. « Si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de... » Ah, ça change maintenant, l'Esprit de vérité. « Que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voyez-vous ? C'est donc ici l'esprit de vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il vous conduira toujours en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Tout ce que vous pouvez dire ou faire qui n'est pas dans les Écritures ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu ne vient pas du Saint-Esprit. Ah oui, mais voyons, il y a des nouvelles révélations aujourd'hui. Ah oui. Il y a des nouvelles visions. Ah oui. Il y a beaucoup de visions qui ont besoin de révision. Oui, beaucoup de visions qui ont besoin de révision. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ta parole est la vérité, sanctifiée par la vérité. Si ce n'est pas conforme à la vérité, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ah oui, mais c'est un ange. Ah bon? Ah, c'est un ange. Eh bien, il y a des anges aussi, trompeurs, des anges. Satan se déguise en l'ange de quoi? De lumière. Ah, ça veut dire qu'il est l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'il y a le mensonge, il y a l'erreur, il y a la confusion, il y a les fausses doctrines, il y a des fausses révélations. C'est tout cela dans la vie de l'esprit qui est là. Il y a les dangers. Mais le chrétien ferme les yeux. Il pense que tout ce qui vient de tout ce qui est surnaturel vient de Dieu. Et bien, si tu crois cela, tu vas mordre la poussière bien des fois, et tu risques même de perdre ta foi, de faire naufrage quant à la foi, comme le dit l'apôtre Paul. L'esprit de vérité veut dire qu'il y a le mensonge tout autour. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole ne vient pas de Dieu. Nous devons le rejeter. Amen. Amen. Dieu nous a donné un cadre, un jour, dans lequel nous devons évoluer. Un point, c'est tout. La Bible dit bien, on ne doit rien ajouter et rien retrancher. Vous le savez comme moi. Et un jour, un certain prédicateur a dit ceci, un Américain. Il est mort maintenant. Mais je vais vous le dire, c'est important. Et c'est comme ça qu'il a séduit beaucoup de chrétiens, et même des prédicateurs. Il a dit un jour à des prédicateurs que Dieu était plus grand que sa parole. Vous avez bien entendu? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dieu plus grand que sa parole. God is greater than his word. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, Dieu peut faire des choses au milieu de nous qui ne sont pas dans sa parole. Autrement dit, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. N'importe qui peut venir. Moi, Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Ah oui, mais c'est pas écrit. Moi, c'est rien. Dieu est plus grand que sa parole. Tout n'est pas écrit. Ah, tout n'est pas écrit. Ah, c'est là le mensonge. C'est là la ruse. Tout est écrit. Et nous ne devons pas aller au-delà de cette parole. Tout ce qui est à côté est miné. L'esprit de vérité. Quand Dieu est plus grand que sa parole, quel mensonge, quelle séduction. Et il y en a encore beaucoup de chrétiens et de prédicateurs qui croient ce mensonge-là. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Dieu s'est volontairement limité à sa parole. Amen. Amen. Autrement, dites-moi un peu, comment on va savoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable? Comment on va le savoir? Si la parole n'est pas seulement le critère final, l'autorité finale, dites-moi. Moi, j'ai plus d'autorité. Je peux vous dire n'importe quoi. Et vous pouvez me dire aussi n'importe quoi. Et personne ne peut dire, stop là. Personne ne peut dire stop. Puisqu'il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de limite. Puisque Dieu est plus grand que sa parole. Vous voyez la ruse? On va où? Et c'est pourquoi, mes amis, attendez-vous.
Je parle, c'est tout en rapport avec la vie de l'esprit, tout ça. Attendons-nous, dans les années qui viennent encore, à ce que la séduction augmente de plus en plus. Certaines séductions ont passé, mais il y a toujours des nouvelles qui viennent. Et tout cela, avec cette pensée, de nouvelles révélations, de nouvelles pensées qui ne sont pas dans la Bible. Qui viennent peut-être de certains anges même. Certaines visions du ciel. Mais tout cela, si ça ajoute à la parole, si ça retranche à la parole, cela ne vient pas de Dieu. C'est tout simple, c'est tout clair. L'esprit de vérité. Je lisais le passage tout à l'heure dans Jean 14, 13 aussi. Jésus devait partir, il allait bientôt partir et il voulait vraiment imprimer à ses disciples cette pensée-là. Il y aura des combats. Après, il parle de la persécution dans Jean 15. Vous serez rejetés, vous serez haïs. Il y a tant de choses qui vont se passer. S'il vous plaît, il leur dit, tenez ferme, restez attachés à la vérité. Ne vous éloignez pas de tout cela. Mes petits enfants, il leur dit, dans quelque temps, je ne serai plus avec vous. Demeurez dans ma parole et je demeurerai en vous. Mes petits enfants, leur dit-il, ne vous éloignez pas. L'esprit de vérité vous conduira dans la vérité. Et cette vérité est là maintenant. Elle est là. Nous l'avons. Et l'esprit de Dieu, qui a inspiré la parole de Dieu, ne va pas nous dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Si l'esprit de Dieu dit à la fin, c'est terminé, il ne va pas donner maintenant une nouvelle révélation et dire, c'est pas fini. Alors, le Saint-Esprit se contredirait. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui se contredit? Non, non, c'est nous qui nous contredisons. C'est en nous qu'il y a beaucoup de contradictions, mais pas dans le Saint-Esprit. Quand il a dit non une fois, c'est non toujours. Pour terminer, cinquième, l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. Hébreux 10, 29, et je termine avec cela. Il y a là aussi une pensée solennelle. En rapport avec l'Esprit de grâce, Hébreux 10, 29, à partir du verset 26, on peut lire, « Car si nous péchons volontairement, soulignez bien ici, volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et ensuite, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Là, il y a une parole solennelle. L'Esprit de grâce. Quand vous lisez un peu plus loin dans Jude, juste verset encore. Jude, les premiers, les versets 4, verset 3 déjà, vous le connaissez ce verset, n'est-ce pas? Bien-aimé, je désire, Jude 3, Jude, je désire vivement... Vous écrivez au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, même du temps des apôtres, certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps, des impies, verset 3, hein, 3 et 4, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, en dérèglement. Du temps des apôtres, il y avait déjà des faux apôtres, des faux docteurs qui disaient quoi? Vous êtes sauvés par grâce. Donc, quoi que ce soit que vous fassiez, Dieu vous pardonnera toujours. La grâce de Dieu sera toujours là pour vous pardonner. Autrement dit, allez-y. Continuez, même à vivre dans le péché. Et il n'y aura pas de problème pour vous. Vous êtes en ordre avec Dieu. C'est ce que certains prédicateurs du temps de l'apôtre disaient. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Alors que la grâce de Dieu nous invite à changer notre façon de vivre, à abandonner les choses mondaines, comme il est écrit. Dans Tite 2,11, il est dit, « Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à une vie et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Tite, chapitre 2, verset 11.
Mes amis, l'esprit de grâce, ça veut dire une chose. Ne jouez pas avec le péché. Et ne dites pas parce que vous êtes sauvés par grâce, je peux pécher, Dieu me pardonnera toujours. Vous jouez avec le feu et vous n'avez pas compris ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre d'une manière qui glorifie Dieu dans notre vie. Être un peuple purifié, dit l'apôtre, qui lui appartient et zélé pour de bonnes œuvres. L'esprit de grâce. Dieu est là, l'esprit de Dieu est là pour nous communiquer ses grâces. Mais nous ne devons pas abuser de sa bonté, de son amour, et dire que quoi que je fasse, Dieu me pardonnera. Ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Et beaucoup de chrétiens ont accepté cela, et même des prédicateurs. C'est pourquoi toute vie de l'esprit, toute vie spirituelle est complètement anéantie. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché, et non pas justifier notre péché. Amen. Mes amis, je vais arrêter là. Puissions-nous penser dans notre vie de l'esprit pour être renouvelé. Il faut savoir qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Parce que quand certains chrétiens en parlent du renouvellement, on a l'impression que l'esprit c'est une force, une puissance, mais ce n'est pas une personne. C'est quelqu'un qui nous fait du bien, c'est tout. On est bien, on est, voilà. Mais on ne sait pas, c'est une personne. Vous pouvez l'attrister. Vous pouvez l'attrister. Vous pouvez éteindre l'esprit. Vous pouvez mentir au Saint-Esprit. Vous pouvez résister au Saint-Esprit. Ah, oh, on n'entend pas parler de ça. Il ne faut surtout pas en parler. Ah oui, mais le Saint-Esprit veut en parler. Il veut que nous sachions à qui nous avons affaire et qui est celui qui habite en nous. Amen. L'Esprit de grâce. Ils ont outragé l'Esprit de grâce. Ils ont cru qu'ils pouvaient faire n'importe quoi parce que Dieu les avait pardonnés. Quelqu'un qui parle comme ça joue avec son salut même, avec son salut. Voilà comment nous devons envisager la vie de l'esprit, avec cette sainte crainte. Et je vous assure, l'Esprit de Dieu alors agira profondément dans votre vie pour glorifier le Seigneur et pour vous transformer à l'image du Seigneur. Et que nous ne cherchions qu'une chose, obéir. Faire ta volonté, Seigneur, de nous de réaliser qui est l'Esprit de Dieu. Nous ne lui résistions point, mais que nous en soyons remplis jusqu'à déborder pour te glorifier.
Il veut faire des corrections dans certains cœurs. Et de te demander pardon, Seigneur Jésus, pour s'être égaré dans les séductions et les faux enseignements qui circulent dans ton peuple aujourd'hui, dans le monde entier. Seigneur, il y a tant d'erreurs. Nous te demandons pardon, Seigneur
Jésus, amen.
D'avoir attristé ton Saint-Esprit en écoutant n'importe quoi.
Amen.
Et en obéissant à n'importe qui. Le Saint-Esprit aussi nous exhorte parfois. Parce qu'il est un esprit de vérité. Ayons le courage de faire face à la vérité.
Gloire à Dieu.
À quoi cela servirait-il d'arriver au bout de notre vie en continuant d'écouter nos sentiments et de nous tromper magistralement et d'arriver devant le trône de Dieu avec des erreurs monumentales? Ô Seigneur, merci de nous corriger. Et le Seigneur, l'Esprit Saint, est aussi un esprit de consolation. Il veut agir au milieu de nous. Et il veut confirmer ce message. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a une personne ici qui a une sorte d'eczéma sous les pieds. Sous un pied qui l'handicape pas mal. Eh bien, la puissance du Seigneur est là et touche la plante de ton pied.
Alléluia.
Alléluia. Et tu es libéré de cet eczéma.
Amen.
Qui t'embête,
merci,
qui t'ennuie. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. l'action de ton esprit.
Amen, amen.
Tu confirmes ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Et le Seigneur touche encore une autre personne qui a de graves pertes de mémoire. Tu as de grandes pertes de mémoire et cela me te met dans une certaine crainte. Tu es en train de perdre une de tes facultés vitales, la mémoire. Mais le Seigneur contrôle les cellules de ton cerveau. Et merci Seigneur parce que ce soir, tu régénères.
Oui,
ce soir, tu vivifies ces cellules. Et merci Seigneur parce que tu redonnes une mémoire correcte à cette personne.
Alléluia.
Afin qu'elle n'ait plus ses pertes de mémoire.
Merci Seigneur.
Qui l'handicape tellement. Merci Seigneur.
Alléluia.
Tu es présent pour confirmer ta parole. Merci Seigneur au nom de Jésus.
Alléluia.
Et pour la gloire de Jésus, notre merveilleux Sauveur.
Amen.
Alléluia. Nous te louons. Nous t'adorons Seigneur. Alors recevez ce que le Seigneur veut vous donner. Recevez-le. Recevez-le. Louez son nom. Merci Seigneur. Merci. Louange à toi Seigneur.
À toi la gloire aussi.
Et maintenant, le Seigneur veut adresser deux paroles prophétiques qu'il m'a donné avant de venir, pour une personne qui semble se retrouver dans un désert spirituel, une très grande solitude. Mon enfant, te dit le Seigneur, je serai toujours ton guide. C'est moi qui te rassasirai, qui rassasirai ton âme dans ces lieux arides dans lesquels tu te trouves. Parfois, tu en arrives à une extrême faiblesse, même physique. C'est moi, ce soir, qui redonne de la vigueur à tes membres. Alléluia, merci pour la puissance de Dieu qui traverse cet organisme et renouvelle cette personne. Merci Jésus. Je suis pour toi comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Ne crains point. Je garde dans une paix parfaite celui qui garde les yeux fixés sur moi.
Amen.
Je suis le jardinier. Et tu es mon jardin. Je suis le gardien de ton âme. Et je l'arrose à chaque instant. Je la garde et veille sur elle nuit et jour. Nuit et jour. Ma rosée est une rosée vivifiante pour toi. Ne crains point, car j'ai englouti la mort et j'ai vaincu le prince des ténèbres pour toujours, dit le Seigneur. Alléluia.
Amen.
C'est vrai, Seigneur. Une personne qui se sent chancelée, titubée, qui à chaque pas a peur de tomber. Je suis ton conseiller. Et ma sagesse t'indiquera le chemin à suivre. Je marche moi-même à tes côtés et te donnerai toutes les instructions dont tu auras besoin. Je t'enseignerai moi-même la marche à suivre selon mon bon conseil et je ferai concourir toutes choses pour ton bien. Rien n'échappe à mon regard de père. Je reste attentif, même au soupir de ton âme. Mon amour pour toi est éternel. Loué sois-tu. Merci Seigneur. Merci, tu prends soin de nos âmes. Tu prends soin de nos situations. Tu prends soin de nos corps. Tu es un bon berger. Et tu es aussi un bon père et tu fais notre éducation. Merci pour tout ce message que tu nous as adressé ce soir. Louange, gloire à toi, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, et nous voulons te dire que ta volonté soit faite dans notre vie.
Amen.